Parfois, à la télévision, on voit des tours de magie époustouflants. Ce sont de vrais prodiges. On sait qu'il y a un truc, mais on ne le connaît pas. Pour ce qui est de faire des miracles, par contre, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne sur Terre qui ait le don de suspendre les lois universelles à volonté. Les apôtres de Jésus ont eu cette capacité pendant un temps, de manière à authentifier leur autorité. Bien avant eux, les prophètes Élie et Élisée firent respectivement 4 et 8 miracles, si j'ai bien compté. La première période où Dieu a vraiment altéré l'ordre naturel fut par l'entremise de Moïse afin d'extraire le peuple hébreu d'Égypte, de lui faire traverser la mer Rouge à pied sec et de le maintenir en vie dans le désert. Ces événements qui fondèrent la nation d'Israël sont fréquemment rappelés dans l'Ancien Testament et en particulier par les prophètes. Michée ne fait pas exception à la règle et annonce que les signes prodigieux qui provoquèrent et accompagnèrent la sortie d'Égypte se reproduiront à la fin des temps au moment où le Messie établira son royaume 2000 ans sur terre. En effet, et autant qu'on le sache, si Dieu s'est bien assuré que le retour de l'exil babylonien ait lieu sans trop d'encombre, il ne l'a pas accompagné de miracles tels que ceux qui eurent lieu au moment de la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Rien de tel ne s'est jamais accompli depuis. Tout comme l'Éternel envoya les 10 plaies contre le Pharaon, à la fin des 7 ans de tribulation, Dieu frappera le monde par une succession de jugements de plus en plus intenses, tels qu'ils sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Je continue à lire dans le chapitre 7 du livre de Michée. « Comme au temps de jadis où tu sortis d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. » Verset 15. L'Éternel répond à une prière de son prophète qui lui a demandé d'étendre à nouveau sa bénédiction sur le peuple élu, comme au jour d'autrefois quand Israël atteignit son apogée sous les monarchies de David et de son fils Salomon. Assez curieusement, la réponse de Dieu se compose d'une phrase quelque peu bancale, puisque Michée passe brutalement des pronoms « tu » à « lui ». Il dit « comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des merveilles ». En fait, les deux pronoms se rapportent à Israël. Le premier concerne le peuple ancien et actuel, tandis que le second prénom désigne le nouvel Israël qui dans l'avenir sera purifié et l'objet de nouveaux miracles. Je continue le texte. Les nations le verront et seront confondues malgré tout leur pouvoir. Elles ne trouveront plus un seul mot à dire. Elles seront abasourdies. Verset 16. C'est ce qui est déjà arrivé aux Assyriens quand ils ont encerclé Jérusalem et que le matin, ils ont découvert que 185 000 de leurs soldats étaient morts dans la nuit. À ce sujet, Michée a déjà dit « Alors mon ennemi en sera le témoin et sera couverte de honte, elle qui me disait « Où donc est l'Éternel ton Dieu ?» et je la verrai de mes yeux être foulée aux pieds comme la boue des rues. » À la fin des temps, quand l'Éternel décidera de tirer le rideau et de faire éclater le tonnerre de ses jugements, les nations seront abasourdies, stupéfaites par l'inutilité de leur puissance militaire, saisies d'effroi et muettes d'étonnement. Pourtant, elles resteront obstinément incrédules, ce que confirme l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse où il dit que malgré les châtiments endurés, l'humanité refusera de se repentir. À la fin des temps, non seulement les événements surnaturels qui accompagnèrent la sortie d'Égypte seront renouvelés, mais la terreur et l'admiration suscitées à ce moment-là par les Hébreux chez les nations païennes se reproduiront. Je lis un passage. « Les peuples ont tremblé. La terreur a saisi les gens de Philistie. » Déjà, les chefs d'Édom en sont épouvantés, les princes de Moab se mettent à trembler, tous les Cananéens en perdent le courage, l'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous, ton action extraordinaire les a tous pétrifiés, jusqu'à ce qu'est passé ton peuple, ô Éternel, jusqu'à ce qu'est passé ce peuple que tu t'es acquis. » Cette terreur qu'inspiraient les Hébreux avait gagné les peuples cananéens. Rahab n'était peut-être qu'une prostituée ordinaire, mais elle était d'une sagacité peu commune. Elle décida de cacher les deux espions israélites, et avant qu'ils ne s'endorment, elle leur a demandé la vie sauve pour elle et sa famille, parce que, dit-elle, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous, et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous, car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Je continue le texte de Michée. Les nations lécheront la poussière, tout comme le serpent et comme les reptiles, en tremblant. Elles sortiront de leur retranchement et se présenteront devant l'Éternel, notre Dieu, en étant terrifiées. Elles te craindront. Verset 17. L'expression « les nations lécheront la poussière » décrit la coutume qui voulait que les ennemis vaincus s'inclinent devant leur nouveau suzerain jusqu'à baiser ses pieds. Ésaïe ajoute son suffrage à celui de Michée quand il écrit « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je lèverai la main vers les nations païennes. Je dresserai mon étendard en direction des peuples. Ils ramèneront tes fils dans leurs bras. Ils chargeront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes pédagogues et leurs princesses tes mères nourricières. Ils se prosterneront devant toi jusqu'à terre et ils lècheront la poussière attachée à tes pieds. Et tu sauras alors que je suis l'Éternel et qu'on n'est pas déçu quand on compte sur moi. » Les ennemis du peuple de Dieu seront humiliés par le châtiment qui leur sera infligé. Mais une fois que l'Éternel aura fini de juger le monde, les survivants terrifiés viendront s'incliner devant le Messie qu'ils avaient méprisé. Ils quitteront leur forteresse comme des serpents leur nid pour venir se rendre en tremblant devant Dieu. Un autre prophète fait le même commentaire, mais s'adresse plus spécifiquement aux Israélites qui s'inclineront également devant le Messie, aussi appelé le second David. Je lis le passage. « Après cela, ils reviendront à l'Éternel leur Dieu et se tourneront vers lui, ainsi que vers David, leur roi. Dans la suite des temps, ils viendront tout tremblant à l'Éternel pour bénéficier de sa bonté. » Le roi Salomon était un précurseur du Messie et de sa gloire, un avant-goût de la sienne, mais en bien plus pâle, bien sûr. Dans l'un des psaumes qu'il a écrit, Salomon demande à Dieu sa bénédiction, mais de temps en temps, ce qu'il dit s'applique aussi au roi des rois qui régnera sur toute la terre. Je lis un extrait de cette prière. « Qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres selon ce qui est droit. La paix descende des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple. Qu'il fasse droit aux opprimés et aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les enfants des pauvres et qu'il écrase l'oppresseur. Alors ils te vénéreront tant que durera le soleil, tant que la lune apparaîtra à travers tous les âges. Le roi sera comme une pluie qui descend sur un pré fauché, et comme des ondées désaltérant la terre. Que tous les justes soient prospères tant que son règne durera, que ce soit la prospérité tant que la lune brillera, qu'il règne d'une mer à l'autre depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'aux confins du monde. Devant lui se prosterneront ceux qui habitent le désert, et tous ses adversaires lècheront la poussière, et les rois de Tarsis et des régions lointaines lui apporteront des présents. Et les rois de Saba et de Séba lui présenteront leurs offrandes. Tous les rois lui rendront hommage. Tous les pays le serviront. » Le thème de la défaite des nations impies devant le Messie est repris dans le Nouveau Testament qui voit les ennemis de Dieu s'incliner devant Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit « Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'Ancien Testament contient de très nombreuses prophéties qui annoncent la venue, le règne et la gloire du Messie qui est le second David. Nous pouvons trouver ces répétitions lassantes parce qu'elles ne nous concernent pas directement. Mais pour les Israélites, qui avaient une crainte révérentielle de l'Éternel et qui souffraient des injustices de leurs contemporains, ces paroles mettaient du baume sur leur cœur. Je continue le texte. « Quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient ? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. » Verset 18. À partir d'ici et jusqu'à la fin du livre, Michée entonne un hymne d'action de grâce à la louange de la miséricorde divine. Ce cantique montre que le prophète possédait une foi inébranlable en l'Éternel et qu'il savait que les promesses que Dieu avait faites à son peuple s'accompliraient. Aujourd'hui, pour le Yom Kippour, le grand jour des expiations, les Juifs orthodoxes lisent d'abord le livre de Jonas, puis ses derniers versets de Michée. L'apôtre commence par demander « Quel est le Dieu semblable à toi ?» ce qui est aussi la signification de son nom. Puis il répond à sa propre question. Il ne fait guère de doute qu'il avait présent à l'esprit le cantique qu'entonnèrent les Hébreux après leur sortie d'Égypte, car il en reproduit ou imite plusieurs expressions. C'est ainsi que dans le livre de l'Exode, il est dit « Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi et qui est comme toi, paré de sainteté et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges ?» Dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel demande « À qui me comparerez-vous ? De qui me rendrez-vous l'égal ? À qui m'assimilerez-vous pour que nous soyons comparables ? Vous et moi avons notre égal et nous le voyons ou le côtoyons chaque jour. Mais Dieu n'a pas son égal. Lui seul est le Créateur et le Dieu unique et vrai, tandis que vous et moi ne sommes que de simples créatures. Moïse a dit « Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y. » Dieu est absolument juste et saint, tandis qu'il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher, écrit Salomon. Dans ce cantique, Michée mentionne cinq caractéristiques de l'Éternel. Premièrement, il dit que Dieu pardonne les péchés de son peuple, et pour bien souligner cette idée, il décrit les fautes en utilisant trois mots différents. Péché, transgression et iniquité. La deuxième caractéristique de Dieu que Michée met en valeur est qu'il ne reste pas en colère indéfiniment. Troisièmement, Dieu prend plaisir à faire grâce. Le psalmiste écrit « L'Éternel ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. » Quand Moïse a gravi le mont Sinaï pour recevoir une seconde fois les 10 commandements, l'Éternel est passé devant lui et a proclamé « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité, je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération, je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. » Cette vérité comme quoi Dieu pardonne nos péchés est essentielle pour nous et elle est répétée dans le livre des Nombres où il est dit « L'Éternel est patient et riche en amour, il pardonne faute et péché, mais il n'acquitte pas le coupable et il fait payer au fils le péché des pères jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération. Le cantique de Michée a pour parallèle dans le Nouveau Testament les deux magnifiques éloges des voix de Dieu de l'apôtre Paul. Je les cite. « Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse ? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science ! Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans, car qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour ? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire, à jamais. Amen. Je continue le texte de Michée. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Verset 19. La quatrième caractéristique de l'Éternel mentionnée par Michée est que ses compassions ne sont pas épuisées. Il aura encore pitié et il ne se lasse pas de pardonner à son peuple, que ce soit les Israélites ou ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Quand j'y réfléchis, je suis obligé de reconnaître que je suis mon plus grand ennemi parce que je commets des fautes. Or, rien dans l'univers n'est plus dangereux pour mon âme que mes péchés. Voilà pourquoi Michée personnifie les péchés en de redoutables adversaires qui se dressent contre les croyants pour les détruire. Cependant, Dieu les écrase sous ses pieds quand nous venons à lui pour être pardonnés. Notre second plus grand ennemi, le vôtre et le mien, est le diable, mais Dieu se chargera de lui également. L'apôtre Paul écrit « Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. » L'image « Au fond de la mer, tu jetteras nos fautes » est empruntée au récit de la sortie d'Égypte. En effet, il est écrit de l'armée de Pharaon que l'Éternel les a jetés à la mer, l'élite de ses combattants a été engloutie dans la mer des roseaux et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Tu as soufflé et la mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. Michée considère la libération du peuple hébreu de l'esclavage égyptien comme une image de la délivrance du peuple de Dieu de ses péchés parce que Dieu les jette à la mer. Je finis le livre de Michée. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob. Tu manifesteras ta grâce aux enfants d'Abraham comme tu l'as promis aux temps anciens à nos ancêtres. Verset 20. La cinquième caractéristique de l'Éternel que mentionne Michée est qu'il tient sa parole. Malgré les actes de rébellion répétés des Israélites, Dieu demeurera fidèle aux promesses qu'il a faites à leur ancêtre Abraham et qu'il a confirmées à Jacob. Ces deux hommes sont mis en parallèle et représentent l'ensemble du peuple élu. La fidélité et la grâce de l'Éternel se manifesteront par la paix et la prospérité d'Israël. Mais elles ne se réaliseront pleinement que lorsque Jésus-Christ, le Messie, viendra pour établir son règne 2000 ans. En attendant ce jour, le peuple élu subira bien des revers, bien des jugements. l'exil, un antisémitisme généralisé, les pogroms, le nazisme, la haine sans raison et j'en passe. Et puis, à la fin des temps, il y aura la grande épuration du jour de l'Éternel où seul un petit reste de rescapés juifs échappera au massacre. Il constituera le nouvel Israël. Son avenir sera glorieux et avec lui celui de tous les non-juifs qui auront placé leur foi en Jésus-Christ, le roi des rois.